Alors, ce matin, le verset que j'avais à cœur de partager avec vous, c'est dans le psaume 119, un verset que vous connaissez presque par cœur. Mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'on le connaît en fait. On va lire deux versets, le psaume 119, le verset 105. On va parler de la lumière ce matin. C'est le thème de la lumière. Jésus, notre lumière, la parole, la lumière de Dieu. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et un petit peu plus loin aussi. Au verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Un autre texte qu'on va lire aussi, c'est dans l'évangile de Jean, les premiers versets de l'évangile de Jean, qui nous parle de la lumière, qui nous parle de la parole. Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, et on s'arrêtera là. Et la parole a été faite chair, et la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La vie, c'est une sorte de course en avant, n'est-ce pas? On avance. On avance vers quelque chose qu'on redoute, qu'on ne veut pas voir, dont on ne veut pas entendre parler. Mais on avance. Et souvent, dans la parole de Dieu, la vie chrétienne est comparée à une marche. On marche. On marche avec le Seigneur ou on marche sans le Seigneur. On marche. Et en fait, quand on marche, je ne sais pas si... Je suis sûr que vous pourrez tous vous identifier, mais... On aime savoir où on pose les pieds. Vous êtes déjà peut-être promené en forêt ou dans la campagne, peut-être en plein été, et tout d'un coup vous passez sous des sapins et tout d'un coup il fait presque noir. On a presque du mal à voir, tellement ça peut devenir sombre. Et donc on aime en fait savoir où on met les pieds. Ou alors, je me souviens une fois... On était avec des enfants, on faisait un camp d'enfants, et on les avait amenés dans les bois. Et là, on a dit, allez, on éteint les lampes. Là, c'est plus pareil. Hein. Là, on commence à avoir peur tout d'un coup. Le noir, les ténèbres, on ne sait pas où on est, on ne connaît pas trop, on n'est pas en sécurité, on est dans les bois. Alors, on était là autour, hein, on ne les a pas abandonnés au milieu des bois. Mais c'est juste pour montrer qu'on aime voir, en fait. On aime voir où est-ce qu'on met notre pied, de ne pas trébucher, de ne pas tomber, évidemment. De voir aussi devant nous, donc la lampe à nos pieds, hein, la parole de Dieu, puis de voir aussi là où on va, le sentier un peu devant. De savoir, est-ce qu'on va... on est dans la bonne direction toujours ou pas. Donc quand on est, je me rappelle d'une aventure avec Pasteur Brian Lange, pour ceux qui se rappellent de Pasteur Brian Lange ou qui connaissent Pasteur Brian Lange, j'étais tout jeune chrétien, j'étais aux États-Unis avec eux, ils m'avaient amené avec eux dans leur ville des États-Unis, et on revenait d'une soirée en ville avec d'autres personnes, et puis sur la route il faisait un peu le malin, il y avait sa femme à côté, puis moi j'étais derrière et il faisait nuit, et puis on était dans des routes assez droites, en fait, au milieu de la forêt. Et tout d'un coup, avec son genou, il a éteint les phares. Et on s'est retrouvés tout de suite dans le noir. Sa femme a crié. Et lui, il a rigolé, évidemment. Mais c'est juste pour dire que quand tu vas à cette vitesse-là et que tu es dans le noir, tu as vite envie de retrouver la lumière. Parce que là, tu sais que si tu ne retrouves pas la lumière, il risque d'y avoir un problème, en vérité. Donc, la question, c'est que nous qui sommes ici présents, je vous connais tous, il y a point d'aveugle parmi nous. Donc, on voit. On voit avec la lumière du soleil, on voit avec la lumière des spots de cette salle. On voit avec la lumière de la société dans laquelle nous avons grandi. On voit, on pense qu'on voit. Mais est-ce que, avec quelle lumière on est éclairé? Selon quelle lumière on est éclairé? Parce que, alors que la vie avance, le temps passe, nos choix, nos décisions, les directions qu'on prend, face à un carrefour, on va à droite, on va à gauche, on va tout droit, on ne sait pas, on ne voit pas très bien, on pense qu'on voit, on avance, n'est-ce pas? Souvent, c'est des choix qui sont faits un petit peu au bonheur, la chance. Un petit bonheur, la chance, voilà. En espérant que ça va le faire. Et la tragédie pour moi, c'est que, en fait, l'homme du XXIe siècle, mais pas que lui, mais en particulier lui, il pense qu'il les voit bien. Il pense qu'il voit bien et qu'il sait où il va. Mais en fait, en réalité, il ne voit pas bien et il ne sait pas où il va. Et je vais essayer de vous expliquer ça. C'est vrai que comment? Alors, en tant que croyant, en tant que chrétien, on est conscient que Dieu existe, bien sûr, mais qu'il y a aussi un ennemi qui existe. D'accord ? Que le diable existe. Alors, souvent, il a bon dos, le diable. Hein. Tous les problèmes, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non, bien sûr qu'il est à l'origine du mal. C'est lui qui tente, c'est lui qui accuse, c'est lui qui condamne, c'est lui qui trompe, c'est lui qui séduit, c'est lui qui ment. En fait, il s'oppose aux croyants, il s'oppose à notre marche. On est d'accord jusque-là, vous me suivez? Il va s'opposer à nous. Et comment est-ce qu'il va faire ça? D'abord, j'aimerais vous dire, il est plus fort que vous, il est plus fort que moi. Il n'est pas plus fort que Jésus, il n'est pas plus fort que Dieu, ça c'est la bonne nouvelle. Mais il est plus fort que nous. S'il est arrivé à séduire un tiers des anges qui contemplaient la gloire de Dieu, et à tromper Adam et Ève, vous inquiétez pas, il n'y en a pas un d'entre nous qui peut résister face à sa séduction, à ses mensonges, à ses tromperies. Au tout début de l'Église, sa stratégie, ça a été de s'opposer directement à l'Église en persécutant l'Église. Donc il a élevé des tyrans, des hommes qui ont persécuté, des Césars qui ont persécuté l'Église et qui ont fait beaucoup de mal. Mais en fait, plus il persécutait l'Église et plus l'Église grandissait. Donc il a changé de stratégie. Il a décidé maintenant d'essayer de trouver une petite place dans l'Église et essayer de changer, peut-être, d'attaquer l'Église par l'intérieur. Suivez-moi bien, vous allez voir. Et donc l'Église qui était appelée à servir le monde, à servir, à être un témoin, à être une lumière, comme on l'a chanté tout à l'heure, dans le monde, elle est devenue dominante. Au lieu de servir, elle est devenue maître du monde. Et elle s'est, au lieu d'offrir l'Évangile, elle s'est mise à contrôler les gens et à apporter une forme de crainte, la crainte de l'excommunication, la crainte de la mort. Et elle n'a pas apporté ni le réconfort, ni l'espérance, ni l'amour de Dieu. Il y en a un, c'est toujours la même heure, le dimanche matin, ça sonne. Je ne sais pas qui c'est. Mais on vous repère, vous allez voir. Et au lieu d'apporter donc l'espérance et le réconfort, elle a plutôt apporté la culpabilité et la frustration. Hein, il fallait toujours payer davantage pour être sauvé. Les inégalités sociales, vous savez... C'est Bruno qui disait ça hier dans l'étude biblique, j'ai bien aimé. Quand on regarde le monde, on se dit « Oh là là, j'aurais aimé vivre à une autre époque. » Mais en fait, si tu calcules, je ne sais pas quelle époque aurait été mieux. Hein. C'est toujours été compliqué. Ça l'est aujourd'hui encore, mais ça a toujours été compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a eu, là je parle de l'histoire de l'Église maintenant, il y avait des inégalités sociales criantes, des hommes qui souffraient, du péché d'autres hommes. Il y avait les religieux qui étaient les nantis, il y avait la noblesse qui dominait. Donc il y avait tout un système qui a bouillonné comme ça, d'accord ? Et là, je parle de l'Europe en particulier, où Dieu a fait quand même une œuvre extraordinaire avec le christianisme. Parce que souvent on accuse, et il y a des choses à redire par rapport à ce qu'a fait l'Église, et c'est ce que je suis en train de dire là d'ailleurs, mais l'Église a fait de très belles choses aussi, d'accord ? Je veux dire... l'Église a fait des choses extraordinaires, les hôpitaux, les gens qui sont mis au service des autres, les missions, enfin je veux dire, il faut relativiser un peu les choses. Mais dans l'ensemble, ce qui s'est passé, c'est que à une époque, au 15e, 15e, 16e, 17e siècle, il y a eu ce qu'on appelle communément cette période, c'est la Renaissance. Le monde renaît. Mais nous, on parle de renaissance quand on devient chrétien. La nouvelle naissance. On renaît en Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Mais le monde, la renaissance, ce n'était pas de renaître en Jésus-Christ. La renaissance, c'était de retrouver les écrits des philosophes grecs et de commencer à penser humainement en rejetant les dogmes chrétiens, en rejetant Dieu. Et ça a conduit un peu plus tard, au XVIIIe siècle, à ce qu'on appelle le siècle des Lumières. On a trouvé la lumière, les amis. Pourquoi je vous dis ça ? C'est André qui disait ça dans son intro mercredi. C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des idéologies, on les discerne. Et on voit la folie, on voit la méchanceté qui sont derrière. Mais aujourd'hui, notre société est bâtie sur ces philosophies de la lumière. Et on ne voit pas qu'elles sont le problème, le mauvais fondement. Elles sont la lumière de l'homme, de la sagesse de l'homme, de la sagesse terrestre, de la sagesse d'en bas, Jacques dira, la sagesse qui est charnelle, qui est même diabolique. Et c'est sur ces lumières-là qu'on a bâti nos sociétés. Et ce qui nous a trompés aussi, c'est qu'en même temps qu'on a fait ça, il y a eu une évolution dans la connaissance, dans la science, dans le développement, dans la technologie, dans l'avancée. Alors on s'est dit, ça y est, hey, enfin, les dogmes, Dieu, tout ça, on n'en a plus besoin, on va se débrouiller sans lui. Regardez tout ce qu'on est capable de faire. Regardez le progrès de l'humanité. Et à une période de temps, on pourrait se dire, ils n'avaient pas tort. Sauf que maintenant, on arrive... Et on commence à voir les conséquences de cette façon de penser, et cette lumière-là, ce siècle des Lumières, d'accord ? Donc il y avait Descartes, Jean-Jacques, Rousseau, Voltaire, donc tous ces hommes-là, ces philosophes, ces écrivains, en fait, ils proposent de promouvoir maintenant le rationalisme, l'individualisme, le libéralisme, pour s'opposer à l'obscurantisme. Et la religion, c'est l'obscurantisme. Et aujourd'hui encore, quand on parle de religion, ah, mais attends, tu es chrétien, mais tu es obscurantiste, toi. Tu n'as pas pensé, tu n'as pas réfléchi. Parce qu'on a cette lumière qui nous a aveuglés, cette lumière, ce siècle des Lumières, là. ces philosophes grecs qu'on a redécouverts. Et c'est vrai qu'il y avait de l'obscurantisme, et c'est vrai qu'il y avait de la superstition, évidemment. Mais il y a peut-être aussi la vérité en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et donc, la devise du siècle des Lumières, c'est, vous voulez apprendre du latin? Sapere aude. Ça veut dire, aie le courage de te servir de ta propre intelligence. Alors, je crois que Dieu nous a donné l'intelligence pour qu'on s'en serve. Mais à quelle lumière? Avec quelle lumière on éclaire notre intelligence? Avec mes raisonnements, mes émotions, avec sur quoi je m'appuie pour éclairer mon intelligence? L'homme a pensé qu'il pouvait se libérer de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu, maintenant on comprend, on sait, on connaît. Je crois qu'aujourd'hui, malgré tout, on commence à voir les limites de cette... On voit la folie, d'où nous conduit cette philosophie-là, ce fondement-là, qui est simplement sur l'homme, l'homme qui décide, l'homme qui dit ce qui est bien, ce qui est mal. Vous savez que dans le problème, c'est tout à commencer en Genèse chapitre 3, avec la chute. Mais avant la chute, l'homme avait une connaissance du mal, qui était définie par Dieu. Il n'y avait qu'une chose mauvaise, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout. Mais il avait. Après, le diable l'a trompé et il a dit « je vais te donner une autre vision de ce que pourrait être le bien et le mal ». Et c'est maintenant lui qui va décider sous le... Et c'est pour ça que le malin, il est là. Sous les idéologies philosophiques des hommes naturels, d'une sagesse terrestre, vont amener des... Voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Et en fait, on ne sait plus ce qui est le bien et ce qui est le mal. C'est d'ailleurs la confusion, n'est-ce pas? Et c'est ce que Ésaïe dira en Ésaïe 5:20, ils ont transformé le mal en bien, le bien en mal. La confusion totale. Mais qui peut dire ce qui est bien et ce qui est mal? C'est une bonne question. Cet individualisme, ce rationalisme, c'est que chacun dit ce qu'il veut pour lui. Et regardez les gens de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Les gens sont malheureux. Ils savent plus conduire leur vie. Ils sont dans le noir. Et ça n'a rien d'étonnant qu'ils soient dans le noir. Pourquoi? Le péché, les ténèbres, les mensonges, les demi-vérités, qui sont des mensonges. Hein. Le diable, il travaille en demi-vérité, en confusion. Soyons honnêtes. Si nous partons du présupposé que ce monde a accepté que voilà, Dieu n'existe pas, ben, j'aimerais vous dire que c'est l'idéologie qui domine aujourd'hui. Hein. Je vais vous dire une chose, c'est assez direct, assez violent, mais en fait, tout est vanité. Si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien qui existe. Parce que de toute façon, on va tous mourir. Certains plus tard que d'autres, mais on va mourir. Et si on meurt jeune, à qui se plaindre? D'accord? Et c'est ce que dira l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Dans son introduction et dans sa conclusion. Maintenant, donc, si Dieu n'existe pas, tous ces gens-là, ces philosophes, ces grands intellectuels, ils ont dit des choses brillantes, hein, et tout n'est pas faux dans ce qu'ils disent. Mais tout ça... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si on est juste un accident et que la vie, c'est juste une erreur de la nature, presque, ça sert à quoi? En revanche, si Dieu existe, et suivez-moi bien, et je crois évidemment qu'il existe, et vous qui êtes là, qui m'écoutez, le croyez aussi qu'il existe. Si on rejette la révélation de sa parole... Si on rejette sa lumière, ce qui est le cas, c'est ce que l'homme fait par nature. Il est venu, la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. On a par nature, le péché en nous nous pousse à être rebelles, à résister à la lumière de Dieu. On veut notre propre lumière. On veut nos propres raisons. Et après, on se dit, ah, je prends ça, 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 des décisions, puis on se retrouve dans le problème, on se dit, mais comment on fait là? Qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Est-ce qu'il y a un psychiatre? Est-ce qu'il y a un psychologue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour sortir de mon problème? Mais regardez le monde autour de vous, c'est pas ça le problème? Tout le monde est comme ça. Parce qu'on n'a pas voulu écouter, parce qu'on a rejeté celui qui donne la lumière, celui qui donne la vie, celui qui donne un sens, celui qui donne la vie, l'amour, la paix. Et en fait, ils se sont vantés d'être sages et ils sont devenus fous. C'est ce que Paul dira. Et on est dans ce monde-là aujourd'hui. Alors, j'ai des choses à vous dire ce matin. Nous, on a un privilège. C'est que nous avons accès et nous avons compris où se trouvait la lumière. La lumière, elle ne se trouve pas au fond de tes raisonnements. Ça ne veut pas dire que tu n'utilises pas ton intelligence. Ça veut dire que tu as besoin d'éclairer ton intelligence avec la vérité. Pas ta vérité, parce que ta vérité ne te sauvera pas. Ta vérité, tu vas partir avec elle dans la mort et elle ne t'aidera pas. La vérité, la transcendance de Dieu. S'il n'y a pas de transcendance, ce n'est pas la peine de réfléchir, de penser, juste mangeons et buvons et demain on mourra et puis c'est fini et passe à autre chose. Il n'y a rien d'autre de toute façon. Mais nous, on sait qu'il y a autre chose. On sait que cette vie a du sens. Notre privilège, donc, c'est d'avoir accès à cette lumière. Parce que sinon, nous vivons dans les ténèbres. On ne voit pas où on marche. On ne voit pas la direction. On pense que le... Hein, Proverbe 14, 12, tu penses que le sentier que tu prends là, il paraît le bon sentier. Mais à la fin, c'est la mort. Et tu ne le sais pas. Comment tu peux savoir que cette décision, elle va être profitable pour toi? Ah, sur le papier, ça paraît profitable. Hein, tu as un bon travail, tu pars loin, perdu, sans église. Ah ouais, tu vas gagner plein d'argent. Puis ta famille explose, et puis tu divorces, et puis tu pars en morceaux. Pourquoi? Parce que ça paraissait bien le chemin. Et puis finalement, c'était un piège. Donc face aux mots de l'homme, les mots M-A-U-X, Dieu a donné des mots de lumière, des mots de vie, des mots de vérité, des mots de grâce. Dieu a donné le Fils, il a donné son Fils. Ce qu'on vient de lire, le Fils qui est venu, la parole, la vérité, la grâce, se sont présentés, se sont révélés, se sont... Et qu'est-ce qu'on a vu, psaume 119, 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. J'aimerais vous dire, on n'est pas des benêts, mais on est simples. Parce que notre façon de penser, elle est terrestre, elle est humaine, elle est limitée aux 80 ans que nous avons dans notre vie, d'espérance de vie. C'est simple. On n'a pas les voies, ni les pensées de Dieu, ni la vision de l'éternité, ni hors du temps, ni hors de l'espace. On est limité, en fait. On est simple. Et qu'est-ce qui va nous permettre de voir autrement, de penser autrement? C'est la révélation de la parole de Dieu, c'est les rémas de Dieu, c'est la vérité, c'est la grâce. Alors, je dois malheureusement avancer et presque terminer avec... Je continuerai certainement la prochaine fois. Mon propos ce matin, c'est qu'on prenne conscience combien on a besoin de la parole de Dieu. C'est ça notre référence. C'est que Dieu a parlé à travers ce livre et qu'il nous est offert. Et c'est à nous maintenant, c'est à notre part. Qu'est-ce qu'on va faire de ce livre? Vous savez, on parlait de suivre l'arche dimanche dernier. Dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait la loi, les tables de la loi, il y avait la manne et il y avait la verge d'Aaron. Et tout ça, ça parle d'une chose, entre autres, la parole de Dieu. Dieu parle. Hein, la loi, la parole de Dieu, la manne, c'est la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la verge d'Aaron qui a fleuri parle de la vie du Saint-Esprit, de résurrection. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures et qui va maintenant les illuminer, les révéler à notre âme, à notre cœur. Et la parole devient vie. Et la parole devient nourriture pour l'âme. D'accord? Et c'est ce qu'on veut suivre. Bon, on ne suit pas un pasteur, on ne suit pas un ministère, on ne suit pas une église, on suit Jésus-Christ. La parole. La parole. Incarnée. La parole écrite. Et comprenez bien ce que je veux vous dire. Souvent, ok, comment je vais vivre ma vie? Comment je vais diriger? Dans quel chemin je vais prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et en venant ici, j'aimerais vous dire, vous n'allez pas entendre des recettes. Ce n'est pas une église où on donne des recettes. Hein, on dit point, tac, 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 on ne donne pas des recettes. Parce que c'est très facile dans le christianisme, et ça a été un piège, en fait, d'essayer de conformer les gens à un modèle, à un comportement, à une attitude, au modèle chrétien, à la morale chrétienne. Et d'essayer de conformer l'extérieur à, et on s'habille bien, on fait tout bien, on est propre, voilà, on est chrétien, on vient à l'église le dimanche, alléluia, merci Seigneur. Mais en réalité, on ne vit pas avec la révélation de la parole de Dieu pendant la semaine. On vit avec nos raisonnements, on vit avec les idéologies, avec ce qu'on voit à la télé, avec ce qu'on entend aux infos, avec ce qu'on entend au travail, avec nos pensées, avec nos problèmes, avec nos situations. Et ce que je veux vous dire, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas essayer par des efforts naturels, charnels, d'essayer de se conformer à un modèle. La vie chrétienne, c'est une vie de transformation. Romains 12, chapitre 2, chapitre 12 et verset 2. D'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, de ne pas être conformé au monde, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ce que Dieu vous propose, et à quoi je vous invite, et c'est ce qu'on fait depuis, et c'est ce qu'on va continuer de faire, et c'est ce qu'on croit, c'est très simple. C'est ce qu'on vient d'entendre dans l'introduction, laisser Dieu nous aimer. Venir s'asseoir, écouter, entendre, mélanger la foi à ce qu'on entend, croire, se nourrir de cette parole et laisser la parole de Dieu et le plein conseil de Dieu, la vérité de Dieu, et je vais vous expliquer encore un ou deux points, la vérité de Dieu venir dans notre âme, venir dans notre cœur et nous transformer de l'intérieur en changeant nos pensées, en changeant notre regard, en changeant notre vision sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sur la vie, sur le sens, sur le but, sur ce que je vis. Alors, c'est vrai que quand on entend la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, quelquefois, ça fait mal. Parce que si on est honnête, le standard divin est tellement haut, tellement parfait, tellement juste, et moi, je suis pas à la hauteur. Et donc, si la parole de Dieu me condamne ou me culpabilise, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. D'accord ? La parole de Dieu ne condamne pas ni ne culpabilise. La parole de Dieu, elle éclaire, elle illumine. Parce qu'en même temps qu'elle nous annonce la vérité, elle nous donne le moyen d'entendre la vérité, de recevoir la vérité et de vivre la vérité. C'est la grâce. Jésus, c'est quoi ? C'est la grâce et la vérité. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire que le standard que Dieu me donne, il est parfait, mais j'y arrive pas. Mais c'est pas grave, parce que Jésus l'a fait pour moi. C'est la grâce. Ça veut pas dire, continuer à vivre comme... Non, on va laisser Dieu m'amener à vivre de plus en plus comme lui. C'est le but de Dieu, de nous transformer à son image. Mais c'est pas moi qui me change. C'est la révélation de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, de la vérité et de la grâce où il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation. Tu as échoué, confesse ton péché, reconnais. Voilà, tourne-toi vers moi, on marche encore ensemble, fais-moi confiance. Et ça nous apporte une sécurité, une assurance, une confiance. Et on se rend compte que petit à petit, mon comportement, en fait, il va changer, pas parce que j'ai essayé de le modeler à une forme, ou qu'il doit se conformer à l'église de la grâce, mais parce que mes pensées sont changées. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est plus la crainte, à l'intérieur, c'est l'amour de Dieu. À l'intérieur, ce n'est plus le « est-ce que Dieu va me rejeter ?» parce que là, j'en ai tellement fait hier que là, il ne me parle plus pendant 10 jours, au moins. Parce que moi, c'est comme ça que je pense. Et il devrait même une année plus me parler du tout, tellement j'en ai fait. Ce n'est pas la grâce, ça. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la parole de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que quand on est rempli, quand on est renouvelé dans notre intelligence, dans nos pensées, quand on commence à s'aimer soi-même, parce qu'on accepte l'amour de Dieu par la foi, ça demande de l'humilité. Mais comment voulez-vous aimer les autres si on ne s'aime pas nous-mêmes ? Parce que vous savez, vous n'avez pas besoin des autres pour vous condamner, hein. Normalement, dans une église normalement constituée, on n'est pas là pour se condamner, on est là pour s'édifier, s'aimer et s'encourager. On se voit en Jésus-Christ. Mais nous-mêmes, on sait très bien se condamner et se culpabiliser. Et le diable en rajoute une couche derrière, n'est-ce pas? Pour conclure, ta parole est une lampe à mes pieds. La question, c'est où est la parole de Dieu? Et je vais vous dire que le danger, pour nous qui sommes croyants, c'est que la parole de Dieu soit plus devant nous, soit plus l'objectif, soit plus la nourriture de notre âme. Et c'est facile de la mettre sur le côté ou derrière. Et vous imaginez, si la parole est derrière moi, eh bien, à mes pieds, je vais avoir de l'ombre. Et cette ombre, c'est qui l'a produit? C'est moi-même. Moi-même, parce que la parole de Dieu n'est pas à sa place dans ma vie. Elle n'est pas à la bonne place. Et c'est tout ce que Dieu me demande. C'est pas « change-toi, améliore-toi, deviens meilleur ». Non, c'est « laisse la parole de Dieu, laisse la lumière de Dieu te guérir, te restaurer, te relever, t'équiper, t'édifier, te transformer ». C'est tout ce qu'on a à faire. Et nous, ça demande quoi? De l'humilité, de dire « ok, je vais garder la parole de Dieu devant moi ». Je vais donner à la parole de Dieu une place dans mon emploi du temps. Je vais prendre une décision de m'asseoir et d'écouter ce que Dieu a à me dire. Et pas d'accepter d'accusation ni de condamnation. Il y a des choses à changer dans ta vie? Moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien, il y en a encore beaucoup à changer. Ok? Mais je continue. Je dis, Seigneur, voilà, il y a des choses que tu... Et c'est toi qui vas les changer. Et c'est lui qui va nous délivrer. Et c'est lui qui va faire l'œuvre. Donc, le point, c'était la parole de Dieu, c'est la lumière de Dieu, c'est la vie de Dieu. Et ce n'est pas une parole morte, ce n'est pas une parole de condamnation, c'est une parole de vie, c'est une parole de restauration, c'est une parole d'espérance, c'est une parole de paix, c'est une parole d'amour, c'est une parole qui restaure. Et je peux vous dire, et je m'arrête là, si cette année, ensemble, parce qu'on a besoin les uns des autres, c'est un défi, ça demande l'aide de Dieu, ça demande l'aide des autres, ça demande d'être humble, mais de dire, je vais laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans ma vie. Je ne vais pas essayer de m'améliorer, de me changer, de ceci, de jouer l'hypocrite, de faire semblant, de machin. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, mais je suis un enfant de Dieu. Et je ne vais pas simplement croire ce que je vois, ce que je ressens, ce que mes raisonnements, les projections de l'ennemi, je vais croire ce que Dieu dit de moi. Si simplement on fait ça, croyez ce que Dieu dit de vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Ça ne se voit pas encore ce que vous êtes, mais vous êtes déjà parfait aux yeux de Dieu, couvert par le sang de Jésus. Et quand on échoue, on a un avocat qui prend notre défense. Et ça, au lieu de lutter contre le péché, parce que souvent on fait ça en tant que chrétien, on veut... Je ne dis pas qu'il ne faut pas résister à la tentation, mais on ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas changer votre cœur. Moi, je ne peux pas le changer. Mais je peux laisser la lumière venir. Et quand la lumière vient, vous savez ce qui se passe? Les ténèbres sont chassées. La vie vient. La paix vient. Et les relations changent. Et le regard change. Et tout change. Vous imaginez comment le diable a trompé notre société aujourd'hui? On a enlevé la vraie lumière et on l'a remplacée par une fausse. Et les gens se disent, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on n'a pas la bonne lumière. Mais nous, on a la lumière. Et quand on a cette lumière, comme on l'a chanté dans le premier chant ce matin à la louange, on peut être des lumières dans le monde. Et ce n'est pas, il faut que je sois lumière, c'est que j'ai la vie, moi. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai Dieu dans ma vie. Donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Vous souhaitez une bonne année avec la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la, écoutez la parole de Dieu, restez attachés. Vous ne comprenez pas déjà des fois tout. On n'a pas besoin de tout comprendre. Hein. Moi, je ne comprends pas tout dans la Bible. Hein. Je vous le dis. Mais ce que je comprends, et ce que Dieu m'a révélé, ben, j'essaie de le vivre, de le partager ensemble. Et puis, on grandit dans les domaines où on aura besoin de grandir. Et puis ça appartient à Dieu, n'est-ce pas? Et on est dans le repos, mes amis. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le regard, est-ce que je suis assez? On est dans l'amour de Dieu et on demeure dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.